Bon lundi, bon après-midi, bienvenue dans Gravel dans le retour. J'espère que vous allez bien. Gravel qui est absent cette semaine en semaine de relâche et qui nous rejoint dès la semaine prochaine de retour au poste. Mais cette semaine, il prend des vacances avec les enfants ou comme il aime dire, il n'est pas en vacances, il sera de son retour la semaine prochaine.
Oh, pour lui.
Donc, je m'appelle Audrey Pinchot, on est ensemble jusqu'à 18h. Vous venez d'entendre Véronique Bergeron.
Bonjour Audrey.
Fidèle acolyte et on a la chance cette semaine. C'est pas piqué des verres quand même comme nom. On a Antonine Iaccarini qui se joint à nous jusqu'à vendredi. Hey,
tellement contente. Je peux pas imaginer une meilleure manière de passer ma semaine de relâche.
Toi, tu aimes ta relâche avec nous, hein?
Oui, vraiment.
Je trouve ça tellement le fun.
Mes enfants me manquent pas en tout.
Arrête, les gens vont dire que t'es indigne.
Ben non.
Non, mais attends, je vais t'en poser la question. Chaque fois que Denis revient en vacances avec nous autres, de vacances, il nous dit tout le temps, là, les vacances commencent. C'est pas vrai que je le suis quand la relâche est là.
Quand t'as des enfants, tu rentres au bureau, puis on fait toute la même joke. On dit « Enfin, je vais pouvoir venir me reposer au bureau. »
Tout le monde fait cette joke-là à la station. Moi, j'ai pas d'enfant, Audrey non plus, fait qu'on peut comme pas avoir de sympathie. Là.
Non, mais les vacances, c'est un beau moment avec les enfants. Mais à la fin de la semaine, t'es comme « Ouf! » Et tu as beaucoup de respect pour les éducatrices, éducateurs, enseignants, enseignantes.
Ah, ben ça, je peux t'en parler. Tu vois, ma mère, elle a eu une garderie pendant 25 ans. Puis je te dirais qu'à 6 petits cocos, là, de tous les âges, tous les jours à s'en occuper, c'est de la job en tabarnouche.
Je les admire beaucoup.
J'ai eu la chance d'être, la chance ou la malchance, là, ça dépend des jours, d'être suppléante en garderie quelques années. J'ai fait mon cours quand j'ai eu l'âge, puis ça prend de la patience.
Exact.
Puis là, c'est ça, c'est pas les tiens en même temps. Fait qu'on dirait que t'es irritable un peu plus facilement que quand
mais
c'est
encore
les tiens,
là,
probablement.
Quand c'est les tiens, t'as choisi d'avoir des enfants. Puis quand t'as choisi de travailler dans ce domaine-là, t'as choisi de travailler avec des enfants.
Aussi.
Tu sais, fait que je comprends que c'est pas les mêmes engagements de part et d'autre.
Mais c'est pas une vocation pour tout le monde, on va se le dire.
Ouais, mais je pense que si tu le ressens pas en partant, va pas dans ce domaine-là.
Non, il faut vraiment que tu aies la vocation, ça, c'est clair. Ben, je dirais qu'avant d'avoir des enfants aussi, c'est bien de se demander si on aime ça, les enfants.
Parce que... Est-ce que tu peux vraiment. Ben, que, si t'aimes les enfants, oui, mais peux-tu vraiment savoir, par exemple,
parce
à quel
que tout
point
le monde
tu vas être impliqué?
Les tiens, c'est pas pareil.
Ouais, c'est ça.
Mais je pense que c'est vrai que quand c'est les tiens, c'est pas pareil. Mais tu sais, depuis quelques années, on entend un peu plus parler du regret parental. C'est un gros sujet tabou. C'est des gens qui ont des enfants et qui se disent par la suite « Je pense que j'étais pas faite pour ça. »
Hey, si ça sera aux enfants, je trouve ça terrible.
Mais c'est sûr que ça sera aux enfants, je suis désolée. Il y a des gens qui ont fait des entrevues dans les médias.
Je le sais!
Moi, à chaque fois, tu dis « Oh mon Dieu, les pauvres enfants vont savoir ça. » C'est sûr que ça t'affecte, que tu le veuilles ou non.
Il y a un coup de thérapie qui va venir avec ça.
Oui, en même temps... C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une certaine utilité sociale à aborder ouvertement cet enjeu-là qui existe.
Ça, je pense que oui, parce que tu vois, moi, j'ai une amie qui, enceinte, se faisait beaucoup, beaucoup les réflexions de « Hey, je vois mes chums de filles autour de moi qui ont donc bien l'air d'avoir ça dans le sang. »
Oui.
L'espèce d'instinct maternel. Puis déjà, ils en parlent comme si c'était la 8e merveille du monde. Puis elle était remplie de peur. Puis elle savait pas si elle allait être bonne. Elle savait pas si elle allait être sa coche ou du moins dans ce qu'on peut...
Je pense que ça arrive plus souvent qu'on pense. C'est juste qu'il y a une certaine gêne, donc les gens en parlent moins. Fait que dans les dernières années, il y a eu un petit peu plus d'ouverture sur ces enjeux-là, mais je pense que ça prend aussi une vocation parentale. On parle des éducatrices et des enseignants et tout ça, mais c'est vrai qu'être parent, c'est pas toujours facile. Donc oui, on aime ça passer nos vacances avec nos enfants, mais c'est aussi des moments de tension familiale, même des fois entre les couples. On est moins dans notre routine. Mm-hmm. Puis là, les gens se retrouvent 24 heures sur 24 dans la maison. Puis là, tout à coup, tout le monde qui se laisse traîner sa vaisselle puis ses bas par terre, là, ça se met des fois à te taper sur les nerfs.
Tu dis ça, puis je vais te parler d'un parallèle adulte. Mais ma mère, moi, elle était très longtemps justement à la maison parce qu'elle avait une garderie vraiment en milieu familial. Mon père, lui, travaillait à l'extérieur. Un emploi qui faisait en sorte qu'il était souvent sur la route. T'sais. Il n'était pas toujours à la maison. Puis quand il était à la maison, il arrivait à comme 7h30 soir. Puis lui, il s'entraînait le matin avant d'aller à la job. Fait qu'il partait à comme 4h30. 5 heures, tu sais. Fait que ma mère, elle s'était habituée à faire sa routine.
Et voilà.
Puis à avoir ses petites affaires, puis ses repères, puis c'est elle qui, tu sais. Fait que quand mon père, récemment, s'est déménagé à Saint-Raymond, il y a peut-être 2 ans, quand ça a viré de bord, ma mère s'est mise à travailler dans un tout autre emploi, à être en télétravail, puis mon père, autre job aussi, qui fait qu'il est plus souvent à la maison. Elle m'a dit que les tensions au début, là, de ce que tu fais là dans ma cuisine, là, t'es dans mon espace, t'es dans ma bulle.
C'est pas de même qu'on fait ça.
C'est pas de même que. Hey boy!
Non, mais c'est
ça. Tu peux pas imaginer que
même
des enfants.
En politique, c'est un enjeu qui revient régulièrement quand les gens se retirent de politique et qui ont fait une grande carrière en politique.
Qui n'étaient pas, mettons, ils siégeaient pas dans la région qu'ils représentaient.
Exact. Donc là, pendant des années, c'est des gens qui sont absents de la maison pendant 3-4 jours par semaine, constamment, en plus de toutes les activités. Et là, ils sont à la retraite, comprenez-vous. Et là,
mais
ils rentrent à la maison.
Séparation. là.
Ben oui, parce que à un moment donné, ils se rendent compte qu'il y avait leur équilibre dans le fait de ne pas se voir si souvent que ça. Puis la personne qui restait à la maison avait ses petites habitudes. Et là, ça se retrouve bouleversé avec le retour de Jacques ou de Louise tout à coup. Et là, les chicanes commencent.
Mais c'est pas pour rien que de plus en plus, on entend parler de couples qui veulent pas nécessairement habiter ensemble.
Je serais tellement curieuse de savoir si on parle beaucoup de crise du logement, puis on fait porter le chapeau à bien des gens. Statistiquement, il faudrait voir la dernière fois qu'on a sondé la population, mais il y a beaucoup de couples qui font le choix de ne pas vivre ensemble. Puis à un moment donné, à une certaine époque, systématiquement, ça faisait un bout de temps que tu étais ensemble, tu devenais conjoint de fait parce que c'était plus pratique, ça allait de soi.
Oui.
Mais là, maintenant, tu as plein de monde qui vont garder deux logis, deux toits, qui vont s'organiser de cette manière-là. Fait que côté crise du logement, c'est sûr que ça doit avoir un impact.
J'ai même envie de te dire, tu sais, d'après moi, en bas de la trentaine, là, puis je dis ça, je généralise, là, je sens que si tu veux une famille, puis c'est dans tes plans, ton premier réflexe, c'est tu veux un toit. Pour que tout ça, là, ça aille comme du monde. Mais moi, demain matin, mettons, je me réveille, j'ai 40, 45 ans, pour une raison que j'ignore, je suis séparée, puis je refais ma vie. Je pense pas que j'emménage avec mon petit chum.
Hey, moi, je vous le dis tout de suite. Là. Mettons que mon chum me laisse ou que je sais pas ce qui se passe de la vie, mais je me retrouve de nouveau seule. Je ne vivrai plus jamais, je pense, avec quelqu'un.
Véro, t'es dans cette situation un peu. T'es un amoureux, vous habitez pas ensemble.
Mais nous, on est super choyés. T'sais, on reste vraiment pas loin l'un de l'autre. On est à 8-10 minutes en char selon le problème de circulation sur Robert Bourassa. Moi, je trouve ça absolument génial parce que moi, j'ai une routine de vie solo depuis des années et des années.
T'es bien avec ça?
Je suis bien avec cette routine-là. Fait
pourquoi remettre ça en question?
Pourquoi j'en remettrais ça en question? Tout à fait. T'sais, si je le fais un jour, ça va être... C'est, ça peut pas être, ça sera pas des considérations financières. Puis c'est drôle, on avait la discussion en fin de semaine qu'il y a des gens qui, pour des questions financières, vont précipiter le moment où ils vont vivre ensemble. Mm-hmm. Puis dans ma tête, c'est comme avoir un enfant pour essayer d'avoir un couple plus solide.
Oui.
C'est pas des bons arguments, mais il y en a qui n'ont pas le choix de le faire.
C'est plus facile de déménager.
De le faire pour aussi longtemps qu'on veut. Là.
C'est plus facile de déménager que se débarrasser de ses enfants, cela dit. Fait que c'est une erreur qui se rattrape quand même assez facilement là, d'emménager
ensemble. Mais c'est-tu quelque chose, puis là tu me le dis si je vais trouver un, mais c'est-tu quelque chose que vous avez jasé, par exemple, d'un potentiel de vivre ensemble éventuellement?
Loin,
c'est ça. Vous imaginez
c'est
ça
même pas
de suite,
du court terme.
Oh,
même pas du court terme.
Mais je trouve ça intéressant.
Ben, en temps de crise du logement, sinon, un compromis, c'est d'avoir chacun sa chambre.
Chambre à part.
Oui, de plus en plus, j'en vois.
Puis, tu vois, c'est quelque chose à quoi j'ai toujours été... relativement fermé. Fermé. Parce que moi, je me disais, voyons, ton intimité est là.
Puis finalement, elle a rencontré un chum qui ronfle.
Ah-ha. Ouais. Et là, de plus en plus, je constate que, hey, sais-tu quoi, la qualité du sommeil, c'est franchement important.
Tu vas plus aimer ton chum si tu fais des bonnes nuits de sommeil,
ouais,
je pense.
Peut-être. Hey, il est 14h09, juste vous dire que sur Robert Bourassa, direction Nord, la sortie pour Boulevard du Versant Nord est partiellement entravée en ce moment. Il y a une panne, donc ça commence déjà. Quoique le lundi, c'est assez tranquille dans les dernières semaines. Évidemment, vous voyez quoi que ce soit, c'est le 88-971-1021.
Avec le congé, ça risque de paraître encore plus.
Probablement. Oui, parce que 88-971-1021, êtes-vous une couple qui est en vacances en même temps que les enfants?
Pouvez-vous?
C'est ça l'autre question, tu sais. Pouvez-vous vous le permettre? Parce que je pense que parce que nous autres, on a Denis qui automatiquement part à deux relâches par année, on prend comme pour acquis des fois que
on
tout le monde
billet.
Peut lever le pied, mais c'est pas ça pantoute. Là. Il y en a qui doivent s'arranger autrement avec que ce soit gardienne sur le side ou... en passant, on est à moins 11 présentement à Québec. Gros soleil, ça fait du bien, je trouve. C'est frais, par exemple.
Non, pas frais. Frette.
Ouais,
Audrey,
le vent,
c'est pas frais. C'est glacial.
J'essaie d'être positive.
Oui,
on avait
non,
des belles températures les derniers jours.
Quelqu'un qui est en train de t'écouter là au travail se dit « Hey, ça va être le fun quand je vais sortir, ça va être agréable. » C'est pas vrai.
Non, le vent
c'est
est frais.
Habillez-vous.
Le kit que vous avez mis pour partir à matin à job, vous allez encore le remettre un soir.
Au soleil, c'est un peu moins pire, mais autrement, t'as pas tort. T'as vraiment pas tort.
Tu vas retourner dans le parking?
Écoute, là, je suis pas manchée pour. Ce soir et cette nuit, on est à moins 17, quelques nuages. Demain, ce sera moins 1 généralement ensoleillé. Demain, on va être bien. Pour ce qui est de mercredi, 5 degrés alternance soleil et nuages. C'est-tu la première fois qu'on passe au-dessus du zéro? Je me souviens
On
l'a fait en fait la semaine passée. Bon, vois-tu, deuxième fois, donc, ça va faire du bien. Puis
ça
veut dire
qu'on a même eu de la pluie dans la région de Québec.
Mais il y a peut-être ça. Moi, samedi, j'étais pas dans le bout, puis c'était de la grosse neige, moi, de mon côté. Fait que j'étais. Tu vois, moi, j'avais le réflexe de me dire qu'il y avait du monde qui avait peut-être profité un peu de l'extérieur, puis de skier.
Non,
puis,
j'annonce que les sorties familiales de samedi se sont transformées en journée hockey et en cinéma.
On profite dans les trois prochains jours du soleil parce qu'à partir de jeudi, on est plus dans une possibilité d'averse de neige. Puis c'est pas mal plus pluie aussi à partir d'en fait semaine prochaine. Fait que on va peut-être rester dans le déni pour un petit moment. Avez-vous passé une belle fin de semaine, vous autres?
Oui, elle a passé à la vitesse de l'éclair. J'ai l'impression qu'il manque deux journées dans ma fin de semaine. Je trouve ça détestable quand ça arrive, là.
C'est essoufflant, ouais. On dirait. Moi, ça faisait un bout, en fait, que j'avais pas senti ça. J'avais ralenti dans les dernières semaines, ce qui avait fait pas mal de bien. Puis en fin de semaine, ça a été toute qu'une affaire. Bon, moi, j'ai les Rock and Chill les samedis, dimanche matin, 7 à 10. Puis après ça, ben, je travaillais dans un mariage en fin de semaine. Je fais de la coordination. Fait que j'ai été comme toute la journée à course dans le job, fini à 21h, 22h le soir. Puis ben, dimanche, on avait le déménagement du plus jeune frère, l'emménagement plutôt à Québec du plus jeune frère. Fait que ça a été une fin de semaine à course. Puis gros week-end stressant aussi, on dirait. Puis là, je sais pas s'il y a quelque chose que j'ai pas compris. Je sais pas si vous avez un truc que j'ai peut-être pas. Mais samedi matin, je reçois un texto de mon chum qui est avec mon grand frère en montant vers Montréal pour déménager mon plus jeune frère vers ici. Fait que, tu sais, samedi, il faisait le déménagement de Montréal, puis on l'installait dimanche. J'ai un texto de mon amoureux qui me dit « Hey, on vient de faire un gros accident, c'est super glissant. Inquiète-toi pas, on est en vie, on est correct, là. Il n'y a rien de dramatique de toucher, mais on est comme... le char est perte totale, tu sais, c'est pas beau. » Vous comprendrez que c'est un peu stressant. Là. C'est,
un peu, oui.
C'est un peu stressant. Fait que, parle, jase. Bon, on réalise que là, il va falloir qu'il fasse toutes les démarches, tu sais, avec la sac. Puis là, bon, y a-tu une espèce de whiplash avec la tête? Y a-tu des problèmes de dos qui vont s'engendrer? Ils ont comme foncé dans un gros cube. Fait que ça a comme fait en sorte que le char a comme, je vais dire, plié en deux. Là. C'est comme le comment t'appelles ça?
Le hood.
Le hood a complètement fermé en accordéon, mettons, venir défoncer un peu la vitre. Fait qu'un morceau de vitre à l'intérieur du char, puis tout. Puis ben, tu te crispes dans ce temps-là. Fait que là, on commence les démarches pour savoir, bon, ça va-tu être couvert par la sac, s'il y a des physios à voir éventuellement. Et là, t'as 48 heures avec la sac pour être capable de voir un médecin au plus sacrant puis d'être capable de te faire évaluer.
Tellement un défi, genre, impossible. Mission impossible.
On est samedi matin. Ben impossible. Non. Tu dis, il faut que tu aies un médecin de famille. Si
puis eux, ils comptent les jours de fin de semaine?
Bien, là, c'est ce que je crois comprendre. Il y a un lousse chanceuse. On a du monde dans l'entourage qui travaille pour la SAAC. Et donc, on nous a comme dit... Il y a quand même une certaine logique. Là. Okay. Si c'est la fin de semaine puis que tu réalises que des démarches ont été faites, puis le 48 heures il est un peu slack, là. Mais il faut que tu fasses les démarches immédiatement. Fait que tant pis, la fin de semaine, ça saute. Là, là je me mets dans les démarches. Essaye de prendre un rendez-vous, toi,
ben
sur
non,
le site du gouvernement. Peu importe ce que tu mets, que tu mettes là, à 50 km autour de la maison, dans les cliniques, dans le sans rendez-vous.
Il n'y a rien.
Il n'y a rien. Rien
mais
de
c'est parce
rien.
Parce qu'en plus,
de
en ce moment, il y a des vagues de virus.
C'est épouvantable.
Mon chum est allé à l'hôpital la semaine passée. Fait qu'il a pu
pour
faire
lui
un
ou
état
pour, votre...
pour lui. Il a pu faire un état des lieux, de l'état d'une urgence, du moins, et c'était rempli d'enfants malades.
C'est
donc,
capoté.
Il y a vraiment une vague. Là.
C'est des enfants qui sont malades depuis plusieurs jours. T'sais, je
ben
pense
oui,
qu'on s'est,
les parents
s'est
dompté, pas.
Là. Non. T'sais, si à un moment donné, tu étais correct pour aller à l'urgence après 24 heures de fièvre, là, c'est pas vrai.
Non,
les
non,
parents
non.
L'étirent au maximum, puis quand ils vont, c'est parce qu'ils n'ont plus le choix. Là.
Ouais, non, c'est parce que tu es à côté au bout. Puis, là, on s'est dit, on va appeler, mettons, en se levant le matin dans la clinique, voir s'il n'y a pas des plages de libre dans la journée. Rien à faire, aucune plage de libre. Fait que, tu sais, mon copain a dû aller ce midi dans une clinique privée au coût de 280$.
Ben oui, ça
pour être
finit
capable.
De comme ça,
mais oui.
C'est sûr.
Mais c'est parce que tu n'as pas les moyens nécessairement de me dire que ça a été sacré dit. Là. Puis là, ben, tu te fais évaluer pour être capable d'éventuellement avoir un suivi avec la sac, mais c'est un bordel de se retrouver là-dedans. Puis j'avais jamais fait face à ça. Tu sais, des petits accidents, des petits accrochages, mais de devoir faire affaire avec la SAC puis les
médecins.
Le
lien entre
puis...
le médecin et la SAC. Est-ce que je comprends que ton frère n'a pas de médecin de famille?
Non.
C'est ça, parce que c'est toujours le même problème.
Même
quand tu as un
médecin
de famille, tu n'as pas toujours le rendez-vous dans les délais. Là.
Mon chum, il y en a un qui m'a dit que la première chose qu'on te propose sur le site, c'est ça, puis aucune plage avant des mois disponible.
C'est ça, c'est pour ça que mon chum s'est retrouvé à l'urgence la semaine passée, puis je veux pas que vous pensiez qu'il était très, très malade, mais mon chum souffre d'une maladie qui fait qu'il, à un moment donné, fait vraiment des grosses douleurs aux os, puis il était enflé, il avait une cheville grosse comme un tronc d'arbre.
Okay?
Puis il a commencé par essayer d'avoir rendez-vous dans sa clinique. Puis ça allait à tellement trop loin qu'il n'a pas pu attendre, donc il est allé à l'hôpital. Mais c'est ça, il n'y a personne. Il y a encore une partie de la population qui va aller à l'urgence pour des choses non urgentes. Il va en avoir toujours.
Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu n'as plus de repères. Tu ne sais pas par où passer.
Mais
non,
on
l'a considéré.
Il n'y a aucune autre possibilité.
Mais non,
donc
c'est
là,
ça.
Qu'est-ce que tu fais? T'sais, fait que même quand tu as un médecin de famille, tu n'es pas garanti. Là, avec ton histoire de SAAC dans les 48 heures, je m'excuse, mais c'est impossible.
On
n'aurait
pas passé
réaliste.
20 à l'urgence. Là. Ça n'aurait pas fonctionné. Là,
mais donc, ça veut dire que si tu n'es pas capable de remplir les critères, tu vas ne pas recevoir un service auquel, en fait...
T'as payé chèrement.
T'as payé!
Absolument.
Donc, on a choisi d'avoir un système d'assurance automobile,
ben,
ce
oui.
qui nous coûte une mini-fortune, puis ça, c'est en dehors de sa clique.
Mais pour être assuré, tu vois, puis pour être, pour avoir les soins nécessaires dans les prochains mois, il a fallu qu'il paye 280$ au privé, ce que je trouve complètement ridicule.
Bien, c'est ridicule, il a payé ses impôts, il devrait être capable de voir un médecin. Mais l'autre question que je vous pose, c'est pourquoi ça doit absolument être un médecin? Pourquoi on ne peut pas voir un autre professionnel de la santé qui ferait pareil?
Ouais.
Ben, un physio, par exemple, mm-hmm. ou une infirmière spécialisée?
Ben, c'est qu'il te demande, en fait, d'avoir une espèce de rapport médical de base. Puis après ça, dépendant de ce que le médecin dit, là, ils vont te rediriger.
Ben, c'est ça. Alors, c'est encore le boulot d'étranglement.
Ben oui, ben, c'est ça. Sauf que, tu sais, pour pouvoir être remboursé puis être payé, tu n'as pas le choix de passer par le médecin.
Dans les
oui.
solutions qu'on nous donne, ceux qui ont des assurances collectives, puis tu sais, ça, on a tendance à le prendre pour acquis. Là. Tu vas regarder, justement, masso, physio. Si tes médicaments passent, ceux qui ont des lunettes, les dents, tout ça. Mais il y a de plus en plus d'accès à la médecine.
Télémédecine.
Oui, c'est vrai.
T'sais, comme nous, on a accès à la télémédecine sur notre assurance. Mais
ça marche-tu suite à un accident, vu que c'est des bobos physiques?
Mais ça vaut la peine d'essayer.
T'essayes, t'as rien à perdre.
Hey, 88-971-101, si quelqu'un s'y connaît à ce niveau-là, je serais curieuse parce que je le conseillerais, pour vrai.
Parce qu'on nous le mentionne par texto, puis c'est vrai qu'on n'a pas ce réflexe-là. On va passer par le système standard, mais on oublie que de plus en plus. Puis, tu sais, les entreprises choisissent ça justement parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'absentéisme qui est dû au fait que c'est difficile de voir un médecin. Fait que de l'offrir à l'intérieur d'une assurance collective...
Mmh, c'est payant.
C'est payant parce que les gens vont avoir des rendez-vous. Ça va être simple, ça va se faire à distance. Puis, il y a probablement un bon pourcentage des enjeux, entre guillemets, qui peuvent se régler de cette manière-là.
Tu vois, il y a quelqu'un qui nous dit, tu peux voir IPS, ça équivaut au médecin, il n'y a pas de problème. Puis oui, tu peux voir, mettons, un chiro comme première rencontre, ça peut être une preuve pour une première consultation, il n'y aurait pas de problème.
Ah, fait ça,
que si
c'est
jamais,
tu
vois, c'est quelque chose que je ne savais pas non plus. Mais c'est un peu ça le point. C'est qu'on en parle souvent à quel point c'est difficile, mais moi, c'est la première fois que je me retrouvais face à ça.
Puis la plupart des gens, ça arrive une fois.
Oui.
Puis là, si ça vous arrive à toutes les semaines d'avoir un problème,
là,
d'avoir aller voir la sœur,
non, ça marche pas.
Faut qu'on jase.
Mais là, c'est que tu te retrouves complètement perdue, puis je considère être une fille qui est relativement informée à ce niveau-là, tellement on vous en parle. Puis je me suis sentie vraiment dans une pièce
dépourvue,
avec les portes
là.
Fermées, oh, ouais. complètement dépourvue. T'sais. Fait que ça a été un gros week-end. Bref, contente de vous rejoindre. Vous êtes dans Gravel en le retour. Si vous venez d'arriver, vous remarquez que Denis Gravel est absent. Il est en relâche jusqu'à la semaine prochaine. Donc, je suis avec vous jusqu'à 18h, accompagnée de Véro Bergeron, d'Antonine Iacarini. On va avoir bien du fun. Gros show. L'actualité qui prend beaucoup de place avec l'Iran, on va avoir l'occasion d'en jaser en masse. Dès 15h, il y a notre ami Francis Gosselin, docteur en économie, qui va venir s'installer en studio pour les répercussions de notre côté néo-économie, justement. On va avoir aussi Éric Sauvé pour nous parler de géopolitique, là, de tout ce qui se passe. J'ai envie qu'on fasse un wrap-up, en fait. On est une couple à être un peu perdus. Là. Ça date pas d'hier, tout ce conflit-là, ce qui se passe, puis mis à part l'actualité, puis ce qu'on voit passer aux nouvelles. On comprend pas tout. Fait que lui, il va s'assurer de nous faire un petit cours sans eux.
Puis lui, ça fait des semaines qu'il nous dit « Hey, on va se parler de l'Iran. » Puis chaque fois, il se passe quelque chose dans les conflits mondiaux. Cuba est arrivé. Après ça, il y a toute l'histoire de Puerto Vallarta au Mexique. Fait que là, c'est le tour de l'Iran aujourd'hui. Fait que lui, il est bien prêt à nous s'en jaser. Si les gens ont des questions.
Absolument.
Parce que, tu sais, on dirait que ça se multiplie les réactions d'absolument partout. Il y a différents éléments qui touche ce conflit-là. Fait que n'hésitez pas. Puis nous autres, ben, on va lui poser.
88-971-1021. Bon, c'est parti. On revient dans quelques instants. Vous êtes dans Gravel en retour. Gravel. Vous rappelez que Denis est en vacances cette semaine, de retour lundi prochain. Donc, je serai avec vous jusqu'à 18h, accompagnée évidemment de la partner de tous les jours, Véro Bergeron. Il y a Antonine Iacarini qui nous rejoint pour la semaine également. Vous rappelez qu'on est sur le Twitch, twitch.tv, BLVD, barre en dessous, FM. On est allumé à semaine longue. Il y a aussi le 88-971-1021 texto pour nous rejoindre. Et nous appeler, ben, c'est simple, c'est le 418-780-1021, sans parler de nos différents médias sociaux sur lesquels vous pouvez toujours nous rejoindre. Une couple d'affaires intéressantes. Des fois, c'est des niaiseries. Des fois, c'est des belles entrevues, des affaires un peu plus sérieuses. La chaîne YouTube sur laquelle vous retrouvez également tous nos podcasts. On va parler dans les prochains instants avec Antonine du débat la chefferie de la CAQ en fin de semaine. Bernard Drainville et Christine Fréchette qui se sont payés une petite jasette avec Dimitri Soudas en Zoom samedi 16h. Juste avant ça, Véro, peut-être nous jaser de Caroline Proulx qui ne se représentera pas aux élections l'automne prochain.
Ceux qui suivent la politique, c'est pas tant une surprise de savoir qu'elle ne reviendra pas à l'automne prochain. Disons qu'elle a eu un passage plus rock'n'roll au courant des derniers mois. Elle a dû s'absenter pour des raisons personnelles. Vous avez peut-être suivi l'histoire du décès de sa mère. Puis là, elle s'était retrouvée en plus de ça avec la responsabilité des aînés. ce qui avait juste pas de bon sens. Fait qu'après avoir changé encore une fois de ministère, elle dit qu'à l'aube de ses 60 ans, elle a envie d'aborder la suite autrement. Elle était députée de Berthier depuis 2018 quand même. Elle veut mettre son expérience au service d'autres projets et d'autres causes. Et là, c'est dans son cas, on comprend. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments autour de tout ça, mais bientôt, il va falloir faire un état des troupes du côté de la CAQ, parce que si on regarde juste à l'intérieur du Conseil des ministres, il y en a déjà plusieurs qui ont annoncé qu'ils ne se représenteraient pas. La course à la chefferie actuelle risque d'user beaucoup de candidats qui auraient peut-être choisi de se représenter, puis que là, ils vont voir l'avenir comme étant plutôt sombre, puis ils n'auront pas le goût de passer les quatre prochaines années ces bancs de l'opposition. Fait que ça va être... Je ne suis pas pour toi, Antonine, mais moi, j'ai l'impression que c'est vraiment au lendemain de la finalité de la course à la chefferie que les vannes risquent de s'ouvrir, puis qu'on risque d'avoir peu de gens qui reviennent au combat.
Oui, puis ça envoie un message quand même négatif là, pour le gouvernement de la CAQ, parce que même si tu as un nouveau chef ou une nouvelle chef qui arrive, qui va essayer de donner un souffle nouveau à une formation politique, quand une fois par semaine, tu as un ténor, un élément très connu du parti qui annonce qu'il s'en va, c'est sûr que ça fait une impression de fin de régime.
Par contre, c'est arrivé aussi du côté du gouvernement du Parti libéral du Canada sous Justin Trudeau. Puis il y en a, quand ils ont vu que Mark Carney, ça allait bien dans les sondages, leur famille était très importante auparavant.
Oui.
Puis il est soudainement plus devenu quand ils ont fait
ils voulaient voir leur poste famille, de ministre. Passer du temps avec leurs proches. Puis finalement, ça pouvait encore attendre un petit peu, effectivement. Anita Anand, notamment, puis Sean Fraser, qui sont deux personnes qui ont décidé de se représenter finalement à la dernière minute. J'aurais tendance à croire que ça n'arrivera pas à la CAQ.
Je pense
pas, tu sais, veut pas, une Caroline Proulx, ben elle explique les raisons pour lesquelles aussi elle décide. Elle a des raisons personnelles. C'est toujours un mélange de plusieurs choses, raisons personnelles, mais aussi, c'est sûr, quand tu regardes les sondages, puis tu dis, ouf, est-ce que vraiment j'ai l'énergie? Est-ce que j'ai envie d'être dans l'opposition, le cas échéant aussi? C'est pas tout le monde qui a envie de ça. Mais c'est surtout qu'ils ont vu l'expérience de Mark Carney. T'sais, ils l'ont déjà vu, ils décident quand même, malgré qu'on voit que les choses peuvent revirer de bord et tout ça, ils décident quand même d'annoncer.
Tu peux-tu juste le dire quand ça te tente plus? Au lieu de trouver mille et une raisons, puis la famille, puis si, puis ça se dit-tu? J'ai plus l'énergie, puis tant qu'à donner un service de merde à la population parce que mon cœur y est plus, je m'en vais.
Il y en a qui l'ont déjà fait.
Je pense que les gens le disent, mais faut pas penser que... Tu sais, on fait des blagues avec tout à coup, ils n'ont plus envie de voir leur famille puis ils changent d'idée, mais c'est toujours présent quand même chez les politiciens. C'est juste que quand tu prends une décision professionnelle, tu mets toujours plein de choses dans la balance. Puis le fait de jamais voir ta famille puis d'être loin, ça en fait partie. Sauf que quand de l'autre côté de la balance, tu as vraiment du plaisir, tu penses que tu vas être élu dans ton comté, etc.
Tu as des beaux défis,
des beaux dossiers. Ben, tu dis, ben là, je vois pas beaucoup ma famille, mais ça vaut la peine. Je veux le faire, je veux continuer à servir. Quand... excuse-moi de l'expression, mais tu te fais chier, ça va pas bien. Là, tu te dis, non seulement je vois pas mes enfants, mais en plus, j'ai aucun plaisir. Je veux dire, la vie est courte, donc là, la décision devient plus facile. Mais c'est certain que pour la CAQ, là, d'avoir des gens qui annoncent constamment qu'ils s'en vont, qu'ils ne se représentent pas, là, après Geneviève Guilbeault, notamment.
Ça fait mal.
Ça envoie pas, Sonia Lebel aussi, ça envoie pas un message de vent dans les voiles.
On a eu un débat en fin de semaine.
Qui va garder les troupes à bord.
Écoute, c'est un peu ma question. Véro, est-ce que ça a vraiment servi? On a-tu appris quelque chose? Antôt, tu t'es tapé
sacrifié.
Ce débat-là.
Ouais, c'est le terme que tu cherchais.
Pour l'équipe, parce qu'honnêtement, moi, samedi 16h, j'étais vraiment pas devant mon écran. Là.
Bon, je vais être très honnête avec vous. Samedi, j'ai même invité des amis à la maison, des geeks de politique.
Pas juste pour ça, arrête.
Oui, oui, on a mis une TV sur la table, puis on a mangé des chips, puis on a bu de la bière. Et après 10 minutes, on n'écoutait plus.
OK, bien, j'en doute.
Est-ce que c'est parce que vos conversations, en dehors de ça, étaient plus stimulantes ou est-ce que le débat était vraiment juste plate?
Toutes ces réponses, disons. Donc, ce matin, je l'ai réécouté pour vous. Donc, non seulement je l'ai écouté samedi, mais je l'ai réécouté ce matin.
Ça a duré combien de temps?
C'est une heure. C'était quand même court. C'était en fin d'après-midi, samedi. Et c'était un drôle de débat, en fait. Débat, on peut le mettre entre guillemets. C'est plus comme un Zoom. Avec on parle chacun notre tour. Donc, tu sais, de nos jours, on veut moins de cacophonie là, dans les débats. C'est quand même dans l'air du temps.
C'est flat, par exemple.
C'est un petit peu plus flat. En même temps, tu entends ce que les gens ont à dire. Ils disent ce qu'ils ont à dire. Puis ça joue un certain rôle. C'est la commission relève de la CAQ qui l'organisait. Donc, c'est l'aile jeunesse du parti. Ils ont
la
décidé de faire ça sur YouTube.
La CAQ, qui, contrairement, mettons, au PQ puis au Parti libéral, c'est des institutions, leurs ailes jeunesse. Pour la CAQ, c'est quelque chose qui est né dans les dernières années puis qui n'a jamais tant fait parler. C'est comme si la CAQ n'avait jamais eu besoin de renouveau.
Ben en fait, c'est que la vie du parti est vraiment plus mollo. Hein. C'est un parti qui a été articulé autour d'une personne, François Legault. C'est un parti qui a été créé du haut vers le bas. C'est pas un parti là, qui a émané grassroots, puis que c'est du militantisme, puis que finalement, c'est devenu un parti.
C'est une coalition de militants, en fait.
Oui, puis des militants, là, tu sais, je vais vous dire, dans les instances, quand tu vas dans un conseil général, la CAQ, c'est beaucoup des employés qui sont là, des ministres, des députés, mais des militants, il n'y en a pas des tonnes. Donc, l'aile jeunesse elle a quand même amené certains enjeux sur la place publique dans les dernières années. Donc, parce que normalement, une aile jeunesse, ça va essayer de brasser un petit peu son parti pour justement s'assurer qu'on ne parle pas juste d'enjeux qui touchent les plus âgés, parce qu'il faut le savoir, les gens qui votent.
Ça serait d'avoir
plus
une vision.
Ben, c'est ça. Fait que c'est de s'assurer un peu de brasser la cage et d'apporter des idées nouvelles pour pouvoir faire en sorte que le parti connecte encore avec la jeunesse. La CAQ, la commission jeunesse de la CAQ a quand même apporté certains enjeux, mais le but de cette commission jeunesse-là, ça n'a jamais été de mettre son parti mal à l'aise. Là. C'est toujours bon chic, bon genre. Mm-hmm. Et d'après moi, la commission jeunesse avertissait la CAQ avant de sortir quelque chose dans les médias.
Fait qu'on a traité de quoi, mettons, dans ce débat-là? J'imagine que l'avenir de la CAQ faisait partie des questions.
Oui, donc comment on voit l'avenir de la CAQ, chacun des candidats, puis ils ont des visions quand même assez différentes. Hein? M. Drainville veut amener ça beaucoup plus vers la droite, veut revenir à l'ADN à des KISS. Il y a été question d'emploi chez les jeunes, qualité de vie des jeunes en général, donc évidemment, c'est le logement, l'accès à la propriété, équilibre budgétaire, puis la question de l'identité aussi. C'était pas un débat qui a été dans l'affrontement, animé par Dimitri Soudas, qui a fait un bon travail d'animation, qui a posé des bonnes questions aussi. Mais je m'interroge sur vraiment le format de faire des zooms comme ça, parce que les candidats se voient pas vraiment. Moi, je trouve qu'on n'a pas beaucoup amélioré la qualité des entrevues en virtuel. Tu sais, quand on voit des gens
Il y a un petit délai, c'est pourri.
Il y a toujours un petit délai, la caméra n'est pas bien installée.
Il y a toujours un flou en arrière.
C'est flou. Là, des fois, il y a des gens qui se mettent un fond, puis là, le fond fait des buzz pendant que les gens parlent.
Tu remarques plus le contenant que tu vas porter attention au contenu.
Exactement. Donc, ça devient des distractions.
C'est vrai que Christine Fréchette ne savait pas qu'elle était visible?
Écoute, à un moment donné, elle a fait son mot d'introduction.
C'est cocasse.
Et par la suite, elle faisait des signes. Visiblement, elle n'était pas seule dans la pièce. Là. Son équipe était là, peut-être lui passait des petits textos, elle regardait souvent sur son écran et tout ça. Mais à un moment donné, elle s'est mise à faire des signes voulant dire « j'entends pas ou je vois pas là, ce qui se passe en ce moment », mais nous, on la voyait très bien en train de faire ses signes. Tu comprends? T'sais, c'est toujours un peu malaisant.
C'est pas attirant pendant tout à l'écouter, je trouve.
Et la fin du Zoom, à un moment donné, les gens se disent « bye-bye », mais là, ils s'en vont pas tout en même temps. Fait que là, mettons, Bernard Drainville disparaît, puis là, Christine Fréchette redit au revoir à l'animateur, là, elle disparaît, mais là, il y a un jeune qui apparaît, qui était sur le Zoom, mais qu'on voyait pas à l'écran, qui était assis dans son sofa. Tu sais, c'était vraiment comme
c'est
un
malaisant.
Peu bizarre.
Comme quand tu croises quelqu'un dans la rue, puis tu dis salut trop tôt, là, t'es comme pogné pour tenir le regard, là.
Ou tu dis salut à quelqu'un, mais tu continues à marcher dans la même direction, puis là, finalement, on sait pas
t'es
vraiment
pogné avec.
C'est un peu ça qui se passe dans ces Zooms-là. Mais côté contenu, je trouve que Bernard Drainville a été... semblait plus à l'aise dans l'exercice. Tu sais, c'est quelqu'un qui est plus familier. Donc, c'est sûr que dans un format comme celui-là, il a l'air plus naturel qu'une Christine Fréchette qui est un petit peu mieux, tu sais, comme il faut. Là, tout est un petit peu comme il faut, un petit peu plus pogné. D'ailleurs, M. Drainville a commencé dès le départ du débat en faisant des liens entre ses accomplissements et des demandes des jeunes de la CAQ. Et j'ai trouvé que c'était assez habile. On peut l'écouter.
Écoutez, vous nous avez habitués ces dernières années à brasser la cage. Vous avez amené beaucoup d'idées neuves au sein de notre parti. C'est vous notamment qui avez suggéré que l'on mette fin aux cellulaires dans les écoles. Je vous ai entendu et les cellulaires sont maintenant interdits avec des résultats très, très positifs pour nos élèves. Vous avez également souhaité plus de civisme dans les écoles. Alors, j'ai introduit le vouvoiement, monsieur, madame. Vous avez aussi, à un moment donné, dénoncé les dérives du mouvement syndical. J'étais à votre congrès pour répondre à ce vœu. Alors, je vous ai entendu. J'ai mis en œuvre certaines des réformes que vous avez souhaitées.
C'est vraiment un sauveur, hein, notre
Bernard.
Ah
oui, là, écoute, à l'écouter, là, il a tout fait. Mais c'est quand même habile parce qu'il connaît son public.
Oui.
Il a adapté son message. Il sait que c'est des jeunes qui l'écoutent. Puis ce qu'il voulait dire, c'est « j'ai fait des choses concrètes », ce qui est un peu moins facile pour Christine Fréchette parce que dans les dossiers dans lesquels elle était, c'est dur en économie de nommer un accomplissement.
Surtout quand tu as dû rattraper des erreurs du ministre qui t'a précédé, en fait, du gouvernement au grand complet. Il y a peu de réalisations tangibles.
Puis ça se dit pas bien aussi dire ben moi j'ai ramassé les dossiers laissés tout croche par mon
prédécesseur. J'ai encore Nordvolt, c'est une coupe d'affaires.
C'est poche un peu, oui. Bernard Drainville, j'imagine, a donc un peu mieux paru en général que Christine Fréchette, là, mettons qu'on dit ça comme ça. À quel point ça va changer quelque chose?
Absolument rien. En fait, ce débat-là ne va pas changer le cours de la course à la chefferie. Puis je pense pas non plus que les candidats avaient mis des heures et des heures et des heures de préparation pour ce débat-là. Je pense qu'ils gardent leurs énergies pour les vrais débats, entre guillemets, 21 mars et 28 mars prochains. D'après moi, M. Drainville va attaquer un peu plus fort. On est sorti un peu des propositions et du contenu pour parler de questions un peu plus personnelles. Dimitri Soudas qui a demandé à M. Drainville et à Mme Fréchette de parler d'un échec qu'ils ont eu dans leur parcours. M. Drainville a dit de son côté qu'il regrettait de ne pas avoir repris la ferme familiale. Bon, je m'excuse.
Mon Dieu!
Honnêtement, c'est pas un vrai échec. Donc, c'est comme quand en entrevue, on te demande de nommer un défaut puis tu dis que t'es trop perfectionniste. Oui, honnêtement, oui.
Je suis trop dure envers moi-même.
Mais je pense qu'ils ont... Oui, je pense qu'ils ont été un peu pris de court, puis ça a permis à M. Drainville de répéter son background agricole, de région, etc. Puis je pense qu'il était content de ça. Alors que Fréchette, de son côté... Elle a décidé de montrer une rupture avec l'ère Legault sur l'approche économique un peu plus professionnelle comme échec, entre guillemets.
Je pense que notre gouvernement, au fil des dernières années, on y a peut-être été un peu fort sur l'interventionnisme économique. Alors, moi, je m'engage à ce que, advenant que je sois élue et en charge, à ce qu'on soit un peu plus en retenue au niveau de l'interventionnisme économique, qu'on s'assure qu'il y ait un bon équilibre aussi entre les PME, les différentes régions et des grands joueurs internationaux. Il nous faut les deux.
Je viens d'une famille agricole. On était 6 enfants. J'étais l'aîné. J'aurais voulu pouvoir prendre la terre. Et je ne l'ai pas prise parce que je n'étais pas doué. J'étais bon avec les animaux, mais je n'étais pas bon avec la machinerie. J'étais très gaffeur. Alors ça, c'est une peine et une tristesse qui m'habitent. J'essaie de, comme me l'a demandé mon père, j'essaie de ne pas oublier les agriculteurs. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé des mesures pour soustraire les agriculteurs à la taxe carbone, pour leur donner de l'allègement réglementaire et être le champion de la gestion de l'offre pour défendre la ferme familiale. Donc, c'est ma façon, si vous me permettez, de me racheter.
Fait qu'il y a deux affaires qu'il ne faut pas oublier. Les agriculteurs, puis les gens de Lévis.
Ouais,
c'est bien ce que
ça.
Je comprends.
Oui, absolument, t'as bien compris.
Puis Christine Fréchette a fait du recyclage aussi d'une position qu'elle avait prise il y a quelques semaines elle avait parlé de sa vision du Québec.
Mais c'est pas un échec à elle.
Non,
je m'excuse.
Si elle avait dit « j'aurais dû parler, je ne l'ai pas fait, j'aurais dû prendre plus ma place, je regrette », soudainement, t'es comme « oh! »
Ça aurait peut-être résonné, ça.
Oui,
bien
plus. Là.
Vraiment.
Donc, finalement, ce qu'on comprend, c'est que ces deux-là ne regrettent pas grand-chose ou n'ont pas eu d'échec personnel. Parce que M. Drainville dire qu'il n'a pas repris la ferme, ça peut être un certain regret ou ça peut lui donner une petite nostalgie ou je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas un échec non plus.
Mais tu sais, Bernard Drainville, je le trouve cute.
Oh!
Mais pauvre, tu sais, dans le sens que je...
Il essaye!
C'est ça, tu sais, je le nommerai.
Mais est-ce que... J'ai une question sérieuse pour vous autres par rapport à ça.
Vas-y donc.
Est-ce que vous pensez que des fois, il y a des gens qui votent en faveur d'un politicien parce qu'ils le trouvent cute ou qu'ils ont pitié?
Oh,
est-ce que vous pensez
pitié?
Que ça se peut?
J'espère que non.
Tu sais, ça m'a fait penser en 2022, quand Dominique Anglade était chef du Parti libéral. À un moment donné, il y a eu comme un petit vent de sympathie. T'sais, c'était la seule femme, puis là, elle avait
mais je pense pas que ça ait eu une incidence.
J'ai l'impression que les gens, les Québécois, on aime pas ça quand quelqu'un se fait tout le temps taper dessus et tout
on
ça.
On a un soft side,
mais
ouais.
Pas au
mais
point
pas pour
de
la politique.
Voter.
Tu sais, mettons, ma mère va continuer à défendre bec et ongle Samuel Montembeau. Même si tout le monde qui parle de hockey le dénigre comme gardien de but. Mais ma mère, elle trouve qu'il fait pitié. Puis elle aime pas
défendre.
Ça. Elle va le défendre.
Mais ça change rien dans notre avenir.
Je pense pas que ma mère défende genre Bernard Drainville.
Je ne pas qu'il devienne premier ministre.
Non, je pense pas.
Tu sais, je vais peut-être avoir un réflexe de... Mettons que tu mets deux personnes à compétences différentes puis qu'il y en a un que niveau personnalité va shiner un peu plus, que je sens que cette personne-là est plus vraie, mettons.
Oui.
Je vais peut-être voter pour un peu moins de compétences, mais un peu plus de vrai.
Bien, ça, c'est un point important parce que l'authenticité en politique, c'est un des ingrédients dont tu as besoin pour aller chercher la faveur des gens. Parce mais que ça suscite de la confiance. Avoir l'impression d'avoir la vraie personne en face de lui.
Je vais nous amener au niveau municipal il y a 4 ans, d'accord? Là. Bruno Marchand, pour moi, c'était ce genre d'individu-là.
Qui avait un vent de fraîcheur.
Qui avait un vent de fraîcheur. Qui
et
avait
une expérience.
Un optimisme, qui avait des buts, puis qui se disait transparent, puis il respirait pour moi une certaine authenticité qui donnait une envie de suivre et de croire.
Mais tu sais quoi la différence entre un Marchand puis un Drainville en ce moment? C'est que quand tu juxtaposes ça avec un effet de nouveauté, ça fonctionne. Le problème pour M. Drainville, c'est que, puis on l'a vu dans le dernier sondage Palace la semaine passée,
il est usé, hein?
C'est qu'il est très connu. Ouais. Les gens ont déjà une opinion de lui et il y a pas mal de monde qui ont une opinion défavorable de M. Drainville. Et on parle de 62% qui ont une opinion défavorable de M. Drainville. Et le problème avec les opinions défavorables...
Ça colle, hein?
Tu peux pas... Quelqu'un qui t'aime pas, c'est bien rare qu'un matin, il va se lever et va dire « finalement, je l'aime ». Alors que quelqu'un que t'aimes, mettons, quand tu disais « moi, Bruno Marchand, au début, tu sais, je trouvais que... » ben ça va arriver que les gens vont tranquillement ne plus aimer quelqu'un. Ça va juste dans un sens, cette affaire-là. Fait que c'est un des problèmes pour Bernard Drainville, même s'il fait un bon débat, même s'il est authentique, même si Audrey a pitié, des fois, de lui, ça changera pas grand-chose à ces
chiffres-là. Il n'y a pas nécessairement mon vote pareil, là, mais je...
C'est ça.
Je trouve qu'il a l'air sympathique.
Ah non, t'achèteras pas une carte, Audrey?
Non, c'est ça. Mais ce que je trouve plate de ces gens-là, c'est que ça a tellement l'air d'un bon monsieur.
Mais puis je peux en témoigner parce que j'ai travaillé avec Bernard Drainville. C'est une bonne personne. C'est quelqu'un c'est agréable de travailler avec lui, extrêmement exigeant, beaucoup envers lui-même et aussi envers les autres. Mais c'est quelqu'un qui aime les gens et qui est humain. Donc, c'est vrai. Donc, cette impression-là que tu reçois à travers l'écran de Bernard Drainville, elle est réelle. On le sent, hein, quelque part. Hein, quand il y a des politiciens qui... ont fait toute leur carrière, c'était correct, les gens les appréciaient, avaient l'impression que c'était une bonne personne, mais qu'en coulisses, on se rendait compte que c'était pas des très bonnes personnes, ils ne traitaient pas bien leurs employés.
Ça finit par se savoir
toujours.
Soit de manière officielle ou officieuse.
Mais je pense que ma pitié vient surtout de là, de savoir que c'est quelqu'un de bien, mais il est brûlé pour la majorité des Québécois.
Ouais, je pense que tu n'es pas la seule à voir les choses de cette manière-là. Puis en terminant sur le débat, il y a une deuxième question que j'ai trouvée intéressante, c'est que Dimitri Soudas a demandé aux deux candidats de nommer une qualité chez leur adversaire. Madame Fréchette qui a salué le fait que Bernard là, s'investit beaucoup puis qu'il se donne à 100% puis que, tu sais, dans le fond, elle le félicite pour sa belle participation. et M. Drainville, lui, a félicité Madame Fréchette pour toutes sortes de choses qu'on peut écouter.
Christine chante très bien. Pas autant que moi, mais quand même très, très bien. On a chanté ensemble, vous allez comprendre la blague. Un jour, prochainement, vous allez voir, on a chanté ensemble, Christine et moi. Alors, je fais un peu d'humour, là, mais très sérieusement, c'est une femme studieuse, Christine. Elle a pris cette nouvelle mission qui lui a été confiée avec le départ de Pierre Fitzgibbon, et puis elle a piloté ses dossiers sans faire d'erreur. Donc, je pense que c'est une femme studieuse, c'est une femme qui est travaillante aussi. Et donc, ça me fera très, très, très plaisir de l'avoir dans mon équipe et elle occupera un poste très important dans mon gouvernement.
Tu sais, vous comprends-tu ce que je veux dire?
C'est
il est fin!
Oui, mais moi, je vous challenge. Il est-tu fin ou c'est un mi-pas vrai compliment?
C'est un complimarde, là.
C'est un complimarde parce que ce que l'équipe de Drainville met de l'avant pour essayer d'étiqueter Mme Fréchette, c'est qu'elle est hésitante, que c'est long, qu'elle n'est pas tranchée, qu'elle est beige, qu'elle consulte. Donc, en disant qu'elle est studieuse et tout ça, dans le fond, il vient renforcer un peu cette idée-là. Puis après ça, ben, sa petite joke de Manon pour dire qu'elle allait la mettre dans son gouvernement. Bon, écoutez. Donc, voilà, c'est pas... je trouvais que la qualité que Christine Fréchette lui a donnée non plus n'était pas exceptionnelle. Tu sens quand même qu'il y a une certaine animosité entre les deux candidats. Puis ça nous amène à se dire que peu importe qui gagne cette course à la chefferie-là, il va quand même avoir des pots cassés à recoller dans ce parti-là.
Prochain débat, 21-28 mars prochain.
Là, ça va être des vrais débats.
C'est ça,
hein?
Ce sera des vrais débats. Est-ce que tu as l'impression que ça va donner quelque chose de plus, de mieux ou bon?
Bien, la tendance est quand même bien cristallisée, sondage après sondage, mais les débats, c'est quand même un moment important, que ce soit dans une campagne électorale ou dans une course à la chefferie. Là, dans ce débat-là, entre guillemets, il n'y avait pas de lapin du chapeau, il n'y avait pas d'attaque. Dans les prochains débats, ça va peut-être jouer un peu plus dur. Ça peut changer certaines choses. Par contre, ce qui a été décrié par l'équipe de M. Drainville notamment, c'est que la date de fin de pouvoir acheter une carte de membre pour pouvoir voter, c'est le 14 mars. Donc, quand les débats vont avoir lieu, tu sais, s'il y a des gens qui écoutaient ça puis se disent « Ah, ben je pense que je vais me prendre une carte. »
Si quelqu'un attend un débat pour acheter une carte d'un parti politique, là, on est en perdition sur un moyen temps.
Non, mais ce qui va se passer, par contre, c'est que si les candidats ont des annonces à faire et des choses qu'ils veulent mettre de l'avant, ils vont tout avoir sorti bien avant la fin de la possibilité de prendre des cartes de membres, ce qui fait que les débats risquent d'être un petit peu plus platounés parce que tu sors pas, tu sais, tu veux avoir un impact pendant que les gens puissent encore acheter leur carte de membre. Mais il n'y a pas eu d'enjeu, à part le troisième lien, si clivant pour qu'il y ait une vague de gens qui achètent des cartes de membre. Il y a eu l'immigration à un moment donné, même il y avait une certaine peur que des immigrants temporaires, finalement, achètent des cartes pour voter pour le candidat qui allait rouvrir le PEC, c'est-à-dire Christine Fréchette. Mais même sur le troisième lien, on n'a pas senti là, qu'il y avait là, une montée du membership de la CAQ, en tout cas selon mes sources. Ça n'a rien donné de plus. Il n'y a pas d'enjeux qui ont fait en sorte là, de vraiment pouvoir hijacker le membership pour faire virer les choses de bord.
Allez-vous écouter le débat le 21 mars prochain? 88-971-1021. J'ai pas l'impression que ça suscite énormément d'intérêt. Je vois la face à Véro, pas l'air d'être convaincu non plus.
J'aime la politique, là.
Ouais, mais non, mais
on dirait que c'est long comme course.
Que même les gens au sein de la CAQ ont l'air de
s'en sacrer
comme de l'an 40.
Mais c'est surtout qu'on dirait qu'on sait déjà d'avance que c'est réglé. Fait que c'est du niaisage.
Pire que
nous.
Ça. On attend l'élection générale à l'automne. Ouais.
88-971-1021, vous êtes dans Gravel, dans le retour. Rapidement, si vous êtes sur Laurentienne-Sud en ce moment, vous allez chercher la capitale direction ouest dans la bretelle. Il y a déjà un ralentissement. Il y a quoi que ce soit d'autre, vous ne vous gênez pas. Encore une fois, c'est par texto. 88-971-1021, texto, on revient.
Pour joindre l'équipe.
On essaie de ne pas perdre nos bonnes habitudes à Boulevard 102.1. Denis qui est absent, j'ai envie de dire les souris dansent. Denis dit qu'il est en vacances de nous autres, moi puis Véro.
On est en vacances de Denis.
On est en vacances de Denis. Ça prend ça de temps en temps hein, dans un trouble pour que ça fonctionne sur le sens du monde.
Il s'amusait bien trop la semaine passée à dire oh, « Vous allez avoir la paix de moi, vous êtes toujours en train de chialer. Hey, » pauvre petit.
Hey, mon doux Seigneur. Il est choyé notre Denis, je vous le promets. Savez-vous c'est quoi le pire? Il a hâte de revenir déjà, je suis sûre. D'habitude, quand il est en vacances, il y a toujours la radio allumée pas loin. Je suis sûre qu'il a allumé son Ziggy là, dans la maison, là, puis il doit être en train
juste
de nous écouter,
cas.
Juste au cas.
Savoir si on parle de lui.
C'est ça, tu sais. Ben ouais, il va nous écrire. Non, il s'ennuie de la radio assez rapidement, notre Denis. Je vous dis qu'on perd pas nos bonnes habitudes. Comme il dirait, ce qui se passe et ce qui se brasse dans les news. Véro, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui?
Oui, on n'a pas le choix de parler de la situation du côté de l'Iran. Je pense que vous avez pas mal suivi ça en fin de semaine, alors que samedi, les États-Unis puis Israël avait décidé de lancer des frappes. Puis c'est des frappes qui, oui, touchaient l'Iran. Le problème, c'est les répercussions à l'inverse qui touchent plusieurs pays qui se trouvent dans les États du Golfe, en fait, où il y a eu des répliques. Puis je pense que les images les plus saisissantes en fin de semaine, ça a été les images du côté de Dubaï. Mm-hmm. C'est depuis des années, on nous vante Dubaï comme étant une nouvelle destination touristique. Puis les destinations touristiques en prennent pour leur rhum ces temps-ci, avec Cuba puis le Mexique. D'ailleurs, j'avais une amie de golf qui est agente de voyage qui s'était faite annoncer jeudi soir qu'elle partait pour Dubaï pour se familiariser puis tout le kit. Fait que quand on est arrivé dimanche matin, elle a fait non, finalement, ça n'arrivera pas ce voyage-là. Mais tu sais, actuellement, il y a entre autres Air Canada qui a annoncé que les vols étaient suspendus vers Tel Aviv, vers Dubaï, mais tu sais, qu'encore là, on propose de modifier ou carrément d'annuler des vols pour tout ce qui est Abu Dhabi, Amman, Beyrouth, Dammam, Erbil, parce que c'est des secteurs qui sont quand même pas mal à risque. J'allais dire un peu à risque, quand même pas mal à risque au moment où on se parle. Fait que c'est un espace aérien qui est ultra achalandé, qui, à ce moment-ci, ne bouge plus. Là, je voyais dans les dernières minutes qu'il y aurait eu de nouvelles explosions, cette fois-ci, du côté du Qatar à Doha. Fait que ça continue de brasser. Dans les dernières heures, il y a Trump qui a fini par faire une conférence de presse en rappelant les objectifs qu'il s'était fixés. En fait, il en a fixé 4. Détruire les capacités de missiles balistiques de l'Iran, réduire à néant leur marine, de faire en sorte que le premier soutien mondial du terrorisme ne puisse jamais avoir d'armes nucléaires. Ça, quand on a toujours l'arme nucléaire en arrière, c'est un bon argument pour ce qui est de Trump aujourd'hui. Et s'assurer que le régime iranien ne puisse pas continuer à armer, financer et diriger des armées terroristes hors de ses frontières. Disons qu'actuellement, il y a beaucoup de questionnements à savoir c'est quoi les véritables motivations de Trump. Les mauvaises langues vont dire que les dossiers Epstein prennent un petit peu trop de place dans l'actualité. Mais d'un autre côté, il y a plusieurs observateurs qui disent que c'était le temps que quelqu'un décide de donner un coup de pied dans le nid de guêpe. Il y aura un impact sur notre économie. D'ailleurs, dans l'heure de 15 heures, puisqu'on voyait que le prix du baril de pétrole avait augmenté de manière quasi fulgurante au courant des dernières heures. Mais notre ami économiste Francis Gosselin, qui va venir s'installer avec nous pour nous parler de tout ça. Il y a Ottawa qui a renforcé son soutien consulaire pour les 85 000 Canadiens qui sont présents au Moyen-Orient. Puis la position du Canada, on essaie d'être assez... autant qu'on a appuyé les mesures qui ont été prises en fin de semaine, on ne compte pas participer à l'opération. Puis là, aujourd'hui, on était beaucoup plus prudent en disant que le Canada soutient beaucoup plus la négociation plutôt que la force. Puis on peut comprendre parce que dans cet état des choses, l'Iran a des... En fait, certains groupes à l'intérieur de l'Iran, puis tu me corrigeras, Antonine, je sais que tu es plus familière que moi avec le dossier, a des groupuscules à gauche et à droite dans différents pays occidentaux où on pourrait tenter de faire des représailles aux différents pays qui s'impliqueraient dans le conflit.
Je n'ai pas à te corriger parce que c'est effectivement le cas, mais je ne suis pas certaine que le gouvernement fédéral s'empêche d'appuyer sans réserve juste à cause d'une peur de représailles. En fait, c'est l'escalade de manière générale que tout le monde essaie d'éviter, étant donné que la région est déjà une poudrière.
Il y a du monde qui ont peur aussi. Là. Je lisais beaucoup de choses en fin de semaine sur les réseaux sociaux. Là, la Troisième Guerre mondiale, est-ce que tu entends? Mais...
C'est parce que de piler sur des pieds de puissance, il y a toujours un risque à un moment donné que ça nous revienne d'en face. Puis c'est à savoir quelle puissance va réagir plus fortement qu'une autre. Puis on dirait qu'on les accumule, ces éléments-là. Fait que c'est à savoir, c'est l'équivalent de Joe Jenga. Là. On retire des cubes, qu'est-ce qui va faire tomber la tour?
Puis c'est une belle image.
C'est un peu pour ça qu'on a ces impressions-là. J'ai l'impression qu'on est peut-être à la porte d'eux.
Puis l'histoire de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale nous a montré que des fois, un événement
part de rien.
Partait de rien, mais qu'avec le jeu des alliances, représailles et l'escalade, bien, on peut se retrouver dans des situations. Moi, je comprends les gens d'être un peu anxieux. On va surveiller ça, mais ça dépend d'un tas de facteurs. Mais tu sais, c'est sûr, quand on entend que Dubaï est sous attaque, tu dis, il y a quelques mois à peine, je vous aurais dit, on s'en va en voyage à Dubaï. Vous me diriez, ben oui, bien sûr. Y a pas,
ça semblait sécuritaire.
Ça semblait sécuritaire. Puis en plus, tout ça s'ajoute récemment, Cuba, le Mexique, le Venezuela. C'est
ça donne une impression que c'est le bordel partout
exactement.
En ce moment. Là.
Je peux comprendre que finalement, les voyages se passent plus au Québec puis au Canada au courant des prochaines
semaines. On est bien chez nous.
Oui, vraiment, vraiment.
On l'apprécie.
On l'apprécie pour d'autres régions. D'ailleurs, dans notre cours, il y avait un point de presse un peu plus tôt aujourd'hui, celui de Jackie Smith. Vous souvenez-vous de Jackie Smith, la chef de Transition Québec aux dernières élections? Malheureusement, aucun de ses candidats n'a pu être élu comme conseiller. Ça n'a pas été son cas non plus. Fait que pour elle, aujourd'hui, on s'y attendait là, qu'elle choisisse de passer le flambeau, qu'elle quitte la direction de son parti. Il y aurait une chef par intérim jusqu'à ce que le parti décide de placer quelqu'un d'autre à cet endroit-là. Ce qui me permet de vous glisser au passage. Il n'est pas trop tard, M. Hamad, pour sortir et dire merci à tout le monde d'avoir venu pour vous autres.
Je l'ai complètement oublié. Je ne sais pas pour vous, là, mais...
Je pense que c'est ce qu'il essaie
c'est
de
exactement,
faire.
Exactement. C'était son but, ça a
oublié.
Fonctionné. Là.
C'est, je comprends que Jackie Smith était sortie plus rapidement au lendemain de l'élection en disant qu'elle allait se donner le temps. Mais au moins, je trouve que c'est un respect pour son équipe. Je vous rappelle que dans le cas de Sam Hamad, son nom paraît même plus. Si vous allez sur le site du directeur général des élections, puis vous retrouvez son équipe Leadership Québec. Le côté leader a clairement pris le bord. Il y a un procès qui s'ouvrait aujourd'hui, celui du cardinal Ouellet qui tente de rétablir son honneur dans une sorte de procès pour diffamation. Le cardinal Ouellet, dont le nom s'était retrouvé dans une action collective qui visait une centaine de prêtres, il y avait en principe 134 présumés victimes, puis à l'intérieur de tout ça, il y avait une dame qui était sortie qui l'a accusée directement, Mme Groslot. Puis elle disait que quand elle l'avait rencontrée à quelques reprises, il y avait eu les mains baladeuses, il y avait des attouchements non sollicités, des massages d'épaule, une main qui descend dans le dos jusqu'au début des fesses, etc., etc. Et lui avait choisi de la poursuivre pour 100 000 $ en disant que c'est jamais des gestes qu'il aurait posés. Il y a l'accusation sous-entend quelque chose de criminel. Fait qu'aujourd'hui, il a commencé son témoignage. Je dois vous glisser au passage cette histoire-là qui s'est déroulée du côté de Saguenay, puis elle date d'un peu plus tôt aujourd'hui. Mais malgré tout, il y a des aberrations comme ça dans notre société. L'avez-vous vu passer?
Vas-y donc.
La femme enceinte qui a été arrêtée par le service de police parce qu'elle était en état d'ébriété.
Eh non, j'ai pas vu ça.
Puis tu sais, on sait pas de combien de mois, on n'a pas ces détails-là, mais elle a passé la soirée dans un bar hier, et c'est une employée qui, au moment où elle a quitté le bar avec son véhicule, qui a choisi d'alerter les autorités vers 22h50. Ils l'ont localisée rapidement.
Ça paraissait-tu qu'elle était enceinte? C'est une drôle de question, mais en même temps...
Je ne sais pas si ça paraissait qu'elle était enceinte, mais ça paraissait qu'elle était en état d'ébriété. Mm-hmm. Je vous rappelle que selon la loi, tu n'as pas le droit de boire puis prendre ton volant, mais tu as le droit de boire puis être enceinte.
Ce qui est étrange un peu.
C'est une recommandation qu'on fait. Mais tu sais, je me suis posé la question. Tu sais, comme société, il risque d'y avoir des impacts pour la suite des choses, mais on a... Tu sais, dans ce cas-là, on peut rien faire. Je sais qu'il y a des choses qui peuvent se produire par la suite, par
contre. C'est comme si la répression sociale et la honte entourant ça et le regard des autres a comme toujours été un peu suffisant pour éviter qu'une femme enceinte se saoule.
Tu le sais que c'est pas bon pour ton bébé.
Moi, je suis une femme qui choisit de prendre un fond de verre de vin et qui sent le besoin de se justifier publiquement. Je trouve ça super plate.
Ben non.
Ça peut faire ce qu'elle veut.
Mais être en état d'ébriété.
Il y a une différence. Nuance
pour moi.
Il y a vraiment une différence.
T'sais, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a plein de femmes et de couples qui aimeraient avoir des enfants qui ne sont pas capables.
Exact.
Moi, j'ai toujours une pensée pour ces gens-là quand je vois des enfants maltraités ou ce genre de situation.
Ouais, on prend le même raccourci. En terminant, si demain matin, vous vous trouvez dehors entre 4h45-ish et 6h et que vous regardez l'horizon à l'ouest, vous allez voir une éclipse totale de lune. Mais quand je vous dis ça va vraiment être à l'horizon, ça va être très, très, très bref puisque la lune se couche à 6h30. Mais aujourd'hui, Audrey, on devrait avoir un lever de lune pendant le
show. On aime ça. Il n'y a pas de nuit pour péter notre bulle.
Non, exactement.
Et vous êtes dans Gravel, dans le retour. Rapidement, peut-être vous dire que présentement, sur Québec. On est à moins 11 degrés ce soir et cette nuit, moins 17, quelques nuages de prévu. Demain, moins 1, généralement ensoleillé. Ça va en être une belle. Mercredi, 5 degrés, alternance soleil et nuages. À partir de jeudi, c'est un peu plus laid. Je pense qu'on peut se permettre de vivre un peu dans le déni. Là, on parle de 60 % de possibilités d'averses de neige. Ça va être nuageux. Même des possibilités de pluie en fin de semaine, selon Environnement Canada. Donc, à voir. Pour ce qui est de la circulation, si vous êtes sur Laurentienne, direction sud, vous allez chercher Capitale-Ouest dans la Bretelle. Il y a déjà un ralentissement. Capitale, direction est, hauteur Robert-Bourassa. Difficile aussi, évidemment, quoi que ce soit d'autre. C'est le 88-971-1021 texto. Au retour, Francis Gosselin, docteur en économie, se joint à nous. L'impact du conflit en Iran sur l'économie, c'est notre sujet.